Ici Moscou. Vous écoutez la rubrique Culture, Portrait et Destin.
Les Italiens à Lyon. Bloc de pierre et coquille d'amande est le nom du livre qui a pour sous-titre Frioulan à Lyon. Il en sera question dans cette émission. L'ouvrage est paru cet été et sa présentation a eu lieu dans deux pays, en Italie et en France. Notre correspondante Nadiezhda Vassilieva s'est rencontrée avec Franca Potapieff, co-auteur du livre, pour parler plus en détail de cette œuvre unique, tramée de souvenirs.
Bonjour Nadiezhda.
Bonjour Franca. Nous parlons de livre que vous avez créé avec vos compagnons de Friola qui habitent Lyon.
Oui.
Le livre qui s'appelle Bloc de pierre et coquille d'amande.
Alors, peut-être qu'on pourrait d'abord situer le Frioul. Le Frioul est une province d'Italie du Nord, tout à fait à l'est, contre la Slovénie, l'Autriche. Donc c'est une région frontière qui a comme ville administrative la plus importante Trieste. Mais la ville centrale, c'est Udine. Et les Frioulans se disent plutôt de Udine. C'est là où on parle le Frioulan, qui est une seconde langue en Italie. Donc le livre va raconter comment 50 Frioulans qui sont arrivés, qui sont partis donc de Udine et de la région, et ils sont venus pour travailler dans la région lyonnaise et ils se sont installés dans la région de Lyon et souvent leurs enfants y sont restés puisqu'ils se trouvaient là. Le livre a été écrit en trois langues, en français d'abord, en italien bien sûr pour que tout le monde puisse le comprendre, et également traduit en frioulan par quelqu'un qui était là-bas. Il a été écrit et fait par 4 personnes. Donc il y a Danilo Vezio qui est le président de l'association à Lyon des Italiens du Frioul, par moi-même. Ensuite il y a eu 2 Italiens, 2 gens du Frioul qui ont participé. Giorgio Ermacora qui a fait la présentation, qui a choisi les photos, qui nous a bien guidés pour la mise en page et tout, qui s'est occupé de toute cette partie-là, et par Marisa, qui a fait la traduction en frioulan. Alors nous, on aurait voulu qu'elle traduise seulement quelques généralités, mais une fois qu'elle a commencé à lire, elle a dit non, c'est intéressant, allez, je traduis tout, ça me plaît, je traduis tout. Parce qu'elle est professeure de frioulan, ou responsable aussi auprès des enfants, parce que dans la région du Frioul, on parle le frioulan, on parle l'italien, et à l'école, ceux qui veulent peuvent prendre aussi en option la connaissance et l'écriture, la grammaire de la langue frioulane. Alors dans le livre, il y a exactement, on voit bien où se situe le Frioul par rapport à l'Italie. De même qu'on a été 4 à faire le livre et qu'on est à cheval entre le Frioul et la France, de même ça représente la vie des gens qui étaient à cheval entre le Frioul et la France. Les 50 protagonistes qu'on a interviewés, certains c'est eux-mêmes qui ont émigré, mais souvent ou assez souvent, comme ceux qui ont émigré ils sont déjà décédés, c'est les enfants qui nous ont parlé de ce que leurs parents avaient vécu et gardé en mémoire. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est que lorsqu'on demandait aux enfants ou à ceux qui étaient là, c'est que chaque fois ils nous disaient bah, attendez, je vais demander à mon frère, je vais demander à ma tante, je vais voir pour être sûr de ce qu'ils allaient dire. Et en même temps ils nous ont donné des photos de famille, des photos souvenirs.
Moi j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de photos dans ce livre et ça lui donne l'impression du livre de famille, parce que ce sont toujours les familles bien sûr chères et proches au cœur de chacun
bien
des
sûr,
participants
oui.
Et qui donnent l'histoire, de biographie, souvenirs d'enfance.
Voilà. D'autant quand on est à l'étranger, la famille est très importante puisqu'elle nous rattache à nos racines. Par exemple, si moi j'étais restée en Italie, j'aurais aimé mon pays, mais ayant émigré J'ai un attachement encore peut-être plus fort en vieillissant à mon pays. Donc, quand ils sont venus dans la région lyonnaise, où sont-ils allés s'installer? Alors, il y en a beaucoup qui sont allés à Vaux-en-Velin, qui est une banlieue à l'ouest de Lyon, Décines, qui est à côté, parce que là-bas, il y avait une grosse industrie. Il y en a qui sont venus à Limonest. Limonest, c'est une banlieue au nord-est de Lyon, parce que il y avait une briqueterie. Et au début du siècle, au début du 20e siècle, donc vers 1910, 1920, 1930, il y en a beaucoup qui sont allés à Sainte-Foy-l'Argentière, qui est un peu plus loin, 30 km de Lyon. Mais là, on n'a pas trouvé beaucoup de descendants qui nous ont parlé parce qu'ils se sont mêlés aux Français. Comme les industries qui étaient là-bas ont arrêté de fonctionner, donc c'était très difficile pour avoir des éléments pour eux. Et puis, évidemment, il y en a aussi qui sont restés sur Lyon, qui n'avaient pas des métiers très déterminés. Alors maintenant, si on parle des métiers qu'ils ont exercés, ces gens-là, il y a eu à Sainte-Foy-l'Argentière, surtout, beaucoup de tailleurs de pierre. Il y a des photos où ils sont une cinquantaine au moins de tailleurs de pierre. Et à un moment donné, c'est eux qui faisaient les pavés pour les rues de la ville de Lyon. La ville de Lyon avait passé une souscription avec une entreprise en lui disant « Il me faut, je ne sais pas combien de milliers, de pavés. » Et c'était eux. Donc, ils retiraient le bloc de pierre. Après, il fallait qu'ils fassent tous les pavés égaux. Mais ils devaient aller très, très vite. En plus, ces tailleurs de pierre, ils ne rentraient pas tous les soirs chez eux parce que la carrière, elle n'était pas toujours à côté. Et donc, ils partaient souvent pour au moins la semaine. Et ils revenaient chez eux seulement le week-end. Après, évidemment, il y en a beaucoup qui ont travaillé dans le bâtiment puisque les Italiens, c'est connu qu'ils savent bâtir. Et il y avait beaucoup de briquetiers qui travaillaient, qui faisaient les briques ou les tuiles. D'ailleurs, mon père a travaillé à la briqueterie. Et il y en avait qui ont fait des métiers tout à fait à part. Comme exemple qui me vient en tête, il y en a un qui a créé une très belle horloge avec le cadran solaire, avec la lune, tout ce qui a rapport à ça, et qui est vraiment une œuvre d'art et que j'ai vue et qui était exposée chez un horloger parce qu'il devait remettre à jour tous les organismes. Et je pense que cette horloge-là, en même temps, elle était liée à Lyon parce que il y avait comme la fontaine de la place des Terreaux, il y avait des chevaux et il y avait Guignol et Niafron qui sont les deux marionnettes de Lyon. On voyait bien que pour lui, c'était, il y avait les deux. Comme à Venise, I Mori qui tapait sur la cloche, c'est exceptionnel. La majorité de ces gens du Frioul, donc, qui sont venus en France, leur but était aussi de construire leur maison. Parce que l'Italien, il veut sa maison. La majorité, ils ont construit leur maison, mais eux-mêmes, souvent, les copains sont venus les aider. Ils étaient très, très économes. Le livre, il a commencé à être édité cet été en Italie, donc à Udine, justement, parce que chaque année, il y a une réunion internationale de tous les gens du Frioul qui sont dans le monde entier. Et donc, le Fogolar Furlang de Lyon y est allé. Et donc j'y étais aussi puisque je faisais partie des gens qui s'étaient occupés du livre. Cette réunion annuelle, elle fait partie de l'association Ente Friuli nel Mondo qui regroupe donc je ne sais pas combien de Fogolars. Fogolars, c'est le nom des associations. Fogolars, c'est le foyer. Hein. Alors soit on s'appelle Fogolars, soit on s'appelle Famae. Famae, c'est la famille. Donc il y en a en Argentine, il y en avait d'Argentine, il y en avait du Canada, d'Australie, de Chine, du monde entier.
Et on arrive.
Et on arrive à les réunir encore. Alors, je ne sais pas pour combien d'années, mais on a eu un repas où on était 1200 personnes. Et pourtant, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alors pendant 3 jours, on a eu des tas de manifestations comme ceci. Un soir, la ville de Udine avait organisé une soirée avec un orchestre la soirée nous était offerte gratuitement. Il y avait 90 musiciens qui ont interprété de la musique classique. L'année prochaine, cette réunion annuelle, elle aura lieu à Pordenone, qui est aussi une ville assez importante de Friuli Venezia Giulia. Une année, elle était à Tarvisio. Tarvisio, c'est une ville frontière avec l'Autriche. Donc, chaque année, oui, ils prennent un point.
Pour bien embrasser toute la région.
Voilà, pour que tout le monde s'investisse, oui, et puis connaisse toute la,
oui,
région.
Oui, je pouvais prendre part.
Ma participation au livre, comment elle est arrivée? Bon, elle est arrivée comme ça, parce que je fais partie du Fogola, parce que je connais, bien sûr, le français. L'italien, je me débrouille, mais enfin, je suis pas la meilleure, loin de là. Et le Furlan, puisque je l'ai pratiqué avec mes parents. On a fait vraiment un travail très agréable, parce que tous les quatre participants, on s'est vraiment beaucoup entendu. Je veux dire, ça s'est fait tout seul. Par contre, les 5 derniers mois, comme Giorgio était en Italie et Marisa aussi, et nous deux, on était en France, le soir, entre 9h et 11h, on était avec Skype sur Internet, et tralali, tralala, il fallait mettre au point, faire les corrections, est-ce que ça on garde, est-ce que ça on jette, etc.
Oui, mais vous-même, vous prenez les interviews.
Combien d'interviews? Alors, je n'ai pas compté, mais j'ai bien dû en faire une trentaine sur 50, mm-hmm, parce que au début, c'est surtout moi qui faisais les interviews, parce que j'avais plus de temps. Le président avait moins de temps. Certaines, je les ai faites toutes seules, certaines, mais pas beaucoup, on les a fait tous les deux ensemble quand on n'était pas très à l'aise, et certaines, lui connaissait mieux les familles, et c'est Danilo qui les a faites. C'était toujours très agréable, ces rencontres, parce que moi, ça me faisait aussi connaître un peu plus mon pays. C'était très riche comme contact.
Bien sûr,
comme contact.
Mais parce que les contacts enrichissent toujours.
Ça enrichit toujours. Et dans la majorité des cas, on a toujours été bien reçus.
Au total, vous avez travaillé 3 années.
Oui, mais avec des moments de calme.
Oui, bien sûr. Mais
on a commencé doucement.
Oui, oui.
J'ai commencé plutôt toute seule.
C'est comme d'habitude pour la création. Puis, tout va comme sur les roulettes. Mais au début, c'est toujours très lentement. Mais le livre, enfin, de fond, été édité, elle était créée en France et éditée en Italie.
Oui.
C'est aussi très symbolique à mon avis.
Oui, c'est très symbolique, c'est sûr, puisque c'est notre vie. Je peux parler un tout petit peu de moi. De toute façon,
il y a un petit résumé. Parce que vous êtes venue en France quand vous aviez 9 ans.
Absolument. Je suis venue en France à 9 ans. J'ai suivi ma famille qui est venue. Mon père n'ayant pas de travail dans la région, il fallait bien qu'il nous nourrisse. Donc en Italie, c'est vrai, on avait une vache, on avait une maison, on avait quelques terrains, mais c'était pas suffisant. Donc lui est venu chercher du travail dans la région lyonnaise, il a trouvé du travail et ensuite il a trouvé un logement et on a pu venir parce qu'il fallait des papiers officiels. On venait pas, on avait des papiers pour 6 mois à renouveler, il fallait aller à la préfecture, ce n'était pas
facile.
Mais ça se comprend. Hein? Mm-hmm. Donc moi je suis venue à 9 ans, donc je suis arrivée, je ne savais pas parler. J'ai été un petit peu surprise, oui, j'ai été surprise désagréablement, très désagréablement évidemment par le logement qu'on avait, et puis par le fait que je savais pas parler. Mais quand on est enfant, on apprend vite et puis c'est la vie, hein. On est dans un pays, il faut faire comme les autres enfants. Suite à ça, j'ai commencé à travailler à Lyon, mais je travaillais dans un bureau et ceci, je voulais enseigner. J'avais les diplômes pour enseigner, mais je ne pouvais pas enseigner parce que j'étais de nationalité italienne. Et j'ai fait ma demande, tout un dossier pour être naturalisée française. Il fallait que j'attende 21 ans puisque la majorité était à 21 ans, mais ma demande a été refusée parce qu'on m'a dit, vous allez sûrement vous marier avec un Italien, donc c'est pas la peine qu'on vous naturalise français. Donc pour pouvoir enseigner, je suis partie en Tunisie.
Pour enseigner,
j'ai trouvé une école qui était toute contente de me recevoir parce que elle me payait comme une Italienne, donc pas beaucoup. Je gagnais moins que ce que je gagnais en France en travaillant dans un bureau. Et en même temps, j'avais un enseignement français. Puisque la Tunisie, c'était le début de l'indépendance. Et elle avait encore beaucoup d'écoles.
Et comme je sais, vous avez retrouvé votre destin, ou bien votre amour là-bas. tout n'est pas hasard dans la vie.
Voilà, ça c'est un tournant.
Votre mari russe.
Voilà, c'est un tournant. Voilà, j'ai rencontré là-bas Alexis. Donc après, je suis revenue en France. Entre-temps, j'ai eu ma naturalisation française. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, nous, toute notre famille, Alexis et moi, on est revenus en France et j'ai enseigné en France une quinzaine d'années.
C'est bien, et quel métier ?
J'ai enseigné à l'éducation nationale française dans un lycée professionnel et j'ai enseigné le secrétariat, c'était mon métier.
Ce que vous aimez ?
Oui, c'était très intéressant, mais l'enseignement, c'est aussi, comme j'avais les 4 enfants à élever, c'était aussi de la fatigue. C'est comme ça, hein, on avance petit à petit. Alors, dans le livre, ce qui m'a impressionné dans un sens, c'est de voir comment les Italiens du Frioul qui sont arrivés, comment ils se sont intégrés et comment ils ont pu apprendre. On s'intègre par la langue. J'ai quelques exemples. Il y en a une qui s'appelait Bruna, dont l'histoire était racontée dans le livre, et qui est arrivée, elle avait 12 ans. Et à l'école, bon, elle est arrivée, elle s'est assise, et donc la maîtresse a commencé, elle avait 12 ans, par lui donner un livre où il y a A, B, C, D, comme les petits enfants qui ont 5-6 ans. Et elle voyait les lettres, il fallait qu'elle les dise. Et puis, il y avait une grande, une qui avait son âge, qui lui disait, mettons, un mot. Il lui disait table. Elle, il fallait qu'elle répète table, et elle le voyait écrit. Et c'est comme ça qu'elle a appris la langue. Au bout de 6 mois, elle commençait à bien se débrouiller. Ma sœur, quand elle comprenait pas quelque chose, elle disait le mot en anglais avec la maîtresse. Ma sœur, elle avait 13 ans, et elle avait fait 2 années au moins d'anglais en Italie, et donc un mot, elle le disait en anglais, et la maîtresse, comme elle avait fait de l'anglais, elle communiquait de cette façon-là avec la maîtresse. Alors après, il y en a un, Livio, qui a appris le français en gros. Il s'ennuyait, il avait 20 ans, 21 ans, et le dimanche, comme il était tout seul, il allait au cinéma. Et toute l'après-midi, de midi jusqu'à 7-8 heures, il restait dans la salle de cinéma. Il y avait des films différents qui passaient, et lui, il a appris, à force d'entendre, il a appris à parler.
Mais c'est bien, aujourd'hui, c'est une méthode pour l'apprentissage de la langue étrangère. Oh, c'est vrai.
Et il a dit que certains films, il les avait déjà vus en Italie, en italien, ça s'est passé comme ça. Bien, il n'y avait rien qui était à l'heure actuelle. Il y a des cours qui sont prévus le soir pour les étrangers, il y a des méthodes pour apprendre, mais ça n'existait pas.
Franck, merci, tout était bien intéressant dont nous avons parlé de ce livre-là. Et moi, j'aimerais terminer aussi par le nom du livre, Bloc de pierre et coquille d'amande. À mon avis, c'est le nom philosophique et comment on peut ça comprendre approfondi, nous pouvons trouver dans le livre même.
Le titre a été choisi parce que il représente la vie, enfin la débrouillardise, comment les Italiens du Frioul arrivaient à trouver une solution à un problème d'une façon pratique, d'après ce qu'ils connaissaient. C'est-à-dire que là, il y avait une personne qui se levait très tôt, à 4 heures du matin, pour se faire un peu d'argent. Elle devait récupérer l'amande de l'amandier pour la vendre ensuite à un confiseur qui faisait des dragées. Et donc, il avait trouvé comme solution, il prenait un bloc de pierre dans lequel il avait creusé un petit creux de la forme d'une amande, mais qui a encore sa coquille. Donc, il mettait une amande avec sa coquille dans ce petit trou, il donnait un petit coup avec son marteau, et hop, l'amande, elle restait belle. Mais il faisait ça très très vite, évidemment, toc, 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 pour vite gagner de l'argent. Et après, quand c'était l'heure de partir au travail, il partait au travail. Alors les voisins, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là à 4 heures du matin, entendre ce petit bruit du marteau, et voilà.
Très bien, c'est très bien, mais on voit que votre avis, l'avis de tous vos compagnons n'était pas facile. Peut-être la vie était dure,
oui.
Et si, mais en même temps, à mon avis, vous êtes heureuse. Et vos compagnons aussi sur la terre française. Vous-même, vous avez 4 enfants, 17 petits-enfants.
Non, 13.
13 petits-enfants, pardon.
Ça fait déjà pas mal.
Et donc, nous vous souhaitons aussi beaucoup de bonnes émotions, beaucoup d'amis et bonne santé, plein succès.
Je vous remercie beaucoup et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, du
bien
monde
sûr,
entier.
Bien sûr, hein? Merci beaucoup. Merci pour
c'est
cette
moi qui remercie, c'est moi.
Aimablement accordé. Au revoir.
Au revoir, Nadiège.
C'était une interview avec Franca Potapieff, l'une des auteurs du livre « Blocs de pierre et coquilles d'amande » consacré au Frioulan à Lyon.